VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 21 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et John Linden.
Pour commencer, les titres.
Au Mali, la junte et la CDAO divergent toujours sur la durée de la transition.
Au moins 12 soldats ont été tués dans une attaque dans l'est du Burkina Faso.
En Centrafrique, la quasi-totalité de l'opposition s'est retirée hier à la veille du dialogue de réconciliation nationale.
L'Ukraine a rejeté l'ultimatum de la Russie, exigeant la capitulation de la ville assiégée de Mariupol, et le président Joe Biden se rendra en Pologne vendredi.
Ne manquez pas d'autres pages sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le médiateur de la CDAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a quitté Bamako après une mission de 2 jours. Il n'a pas obtenu de la junte une date des élections pour un retour des civils au pouvoir. Mouamadou Mfa.
Nous sommes à la fin de la mission à Bamako. Si c'est pour dire que nous sommes tombés d'accord sur une date pour la fin de la transition, je réponds tout de suite non, a déclaré un membre de la délégation de M. Jonathan, qui était arrivé vendredi dans la capitale malienne. Je sais qu'il n'y a effectivement pas eu, à l'issue de ces discussions, d'accord sur une date des élections, a confirmé une source malienne proche des négociations. La junte s'est cependant déclarée favorable à une transition d'une durée largement inférieure à 4 ans, a indiqué la source malienne, qui n'a pas précisé de délai. La dernière proposition faite par la junte à la CDAO lors du dernier sommet de l'organisation début février à Accra était une transition de 4 ans. La CDAO avait lourdement sanctionné en janvier la junte du colonel Assimi Goïta. Ces sanctions, fermeture des frontières avec les pays membres de l'organisation ouest-africaine, embargo sur les échanges commerciaux et transactions financières notamment, punissent le projet des militaires de continuer à gouverner pendant plusieurs années et leur engagement non tenu d'organiser en février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du pays.
Au Burkina Faso, au moins 12 soldats burkinabés ont été tués hier lors d'une attaque de djihadistes présumés contre une équipe de patrouille et de sécurisation aux environs de Niatabwani dans l'est du pays. C'est ce qu'ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires, confirmant un regain des violences ces derniers jours dans le pays. Plusieurs éléments ont également été neutralisés côté ennemi, a assuré une de ces sources sans plus de précision.
En 10 jours, il s'agit de la 6e attaque recensée dans le nord et l'est du Burkina Faso. Au total, 23 civils et 25 militaires sont morts dans ces attaques.
Au Nigeria, 2 attaques ont été perpétrées ce week-end contre des postes de police dans le sud-est du pays. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités soupçonnent les séparatistes Rosine Munezero.
La première attaque a eu lieu samedi à la sortie d'Oeri, la capitale de l'État d'Imo. Des hommes armés ont visé un poste de police avec des explosifs, tuant 2 policiers. Selon Michael Abatam, le porte-parole de la police de l'État, les assaillants avaient également envahi la résidence de George Obiozor, un chef communautaire Igbo, et détruit une partie du bâtiment avec des explosifs. Ce dernier n'était pas chez lui au moment de l'attaque. Dimanche, lors d'une seconde attaque, toujours dans l'État d'Imo, des hommes armés ont ciblé un poste de police avec des explosifs. Ils sont arrivés avec de la dynamite aux premières heures de la journée et ont attaqué une partie du commissariat d'Oru, mais l'assaut a été repoussé, a indiqué le porte-parole de la police de cet État. Selon lui, parmi les assaillants, 4 hommes armés ont été neutralisés et 5 engins explosifs improvisés ont été récupérés. Le président Muhammadu Buhari a condamné dimanche les attaques, tout en s'engageant à mettre fin à la violence persistante dans la région. Il exprime sa sympathie aux autorités policières pour les pertes en hommes et en matériel, ainsi qu'au professeur Obiozor, qu'il a exhorté à maintenir son engagement en faveur de la paix et de l'unité, a déclaré le bureau de M. Buhari dans un communiqué.
en République centrafricaine, selon Nicolas Tiangay, porte-parole de la coalition de l'opposition en 2020, la quasi-totalité de l'opposition ne participerait pas au dialogue républicain avec l'opposition non armée et la société civile, notamment parce qu'il n'inclut pas les groupes armés rebelles dans ce pays en guerre civile depuis 2013. Ce dialogue annoncé par le président Faustin Archange Touadéra doit s'ouvrir ce lundi en Centrafrique.
La coalition, une plateforme d'opposition, reproche aussi au gouvernement de ne pas avoir inclus dans les thèmes prévus du dialogue républicain la question de la crise post-électorale en rapport avec la réélection contestée du président Faustin Archange Touadéra le 27 décembre 2020. Le porte-parole de la présidence a souligné que l'ouverture du dialogue est maintenue pour ce lundi.
En Tunisie, plus de 2000 personnes ont manifesté dimanche contre le président Kais Saied. Une manifestation survenue le dernier jour d'une consultation sur les réformes politiques initiées par le président tunisien Gaby Dorsil.
Abat le coup d'État, le peuple veut écarter le président. Non à la consultation, ont scandé les manifestants rassemblés à l'appel du mouvement citoyen contre le coup d'État et du parti islamo-conservateur Ennahda. Brandissant des drapeaux tunisiens, les protestataires ont marché vers le Parlement, mais ont été bloqués par un important dispositif policier. Dimanche, jour de la fête de l'indépendance de la Tunisie, était aussi le dernier jour de la consultation en ligne organisée par le président Kais Saied en vue d'importantes réformes politiques. Nous n'accepterons pas les résultats de cette consultation. Cette arnaque contre le peuple, a déclaré à la foule Samira Shawashi, vice-président de l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement gelé depuis le 25 juillet. Les réponses à cette consultation doivent servir de base à des réformes politiques qui seront élaborées par une commission d'experts nommée par le président. Un référendum doit être ensuite organisé en juillet sur les amendements à la Constitution que M. Saied veut rendre plus présidentiel, avant de nouvelles législatives prévues mi-décembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un bombardement à Kiev a fait au moins 6 morts dans la nuit de dimanche à lundi, a constaté un journaliste de l'AFP au moment où les forces russes cherchent toujours à encercler la capitale ukrainienne. 6 corps étaient étendus ce matin devant le centre commercial Retroville dans le nord-ouest de Kiev, selon un journaliste de l'AFP. Le site a été touché par une frappe d'une très forte puissance qui a pulvérisé des véhicules et laissé sur le parking un cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de 10 étages carbonisé et encore fumant.
L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville assiégée de Mariupol, a déclaré sa vice-première ministre à un média ukrainien en réaction à l'ultimatum posé par la Russie. Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons déjà informé la partie russe, a déclaré Irina Vereshchuk. Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à déposer ses armes et exiger une réponse écrite à son ultimatum avant lundi 5h au nom de la sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville de Mariupol.
Avec Nanit Talani, faisons un point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Situation sur le terrain, réaction internationale, sanctions. Nanit.
La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud. À Mariupol, les autorités locales ont accusé l'armée russe d'avoir bombardé la veille une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes, assurant que des civils étaient coincés sous les décombres. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé à Israël de faire un choix en soutenant concrètement l'Ukraine face à la Russie lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien. La Turquie a assuré que la Russie et l'Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations et étaient proches d'un accord. De son côté, Volodymyr Zelensky a répété être toujours prêt à des négociations avec Vladimir Poutine dans un entretien diffusé par CNN. L'Australie a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie en interdisant les exportations d'alumine et de bauxite. 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leur foyer en raison de la guerre menée par la Russie, a affirmé le HCR.
Le président américain Joe Biden se rendra vendredi à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais et discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ce qu'a annoncé dimanche la Maison-Blanche. Ce voyage interviendra après la visite de Joe Biden en Belgique pour y rencontrer les dirigeants de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne.
Voilà pour le journal. La Minute Écho, Mohamedou Humfa.
L'agence de notation américaine Moody's a relevé la note du Sénégal de long terme à Ba3, passant ainsi de négative à stable. Dans son rapport datant du 18 mars 2022, cité par Financial Afrique, Moody's explique que ce relèvement reflète une probabilité accrue que le fardeau de la dette publique sénégalaise, 67% du PIB, se stabilise et, en l'absence de chocs imprévus, amorce une courbe descendante au cours des prochaines années. Cette dynamique baissière du fardeau de la dette se renforcera en particulier au fur et à mesure que le pays démarre ses projets énergétiques, selon Moody's. En Afrique du Sud, un tribunal a suspendu la construction au Cap d'un complexe immobilier qui doit abriter le siège pour l'Afrique de Amazon, le géant américain du e-commerce. Le droit fondamental à la culture et au patrimoine des groupes autochtones, plus particulièrement les peuples des Premières Nations Khoi et San, est menacé en l'absence de consultation appropriée, estime le tribunal dans sa décision datée du 18 mars. Le tribunal a ordonné aux promoteurs immobiliers d'organiser une rencontre et une consultation significative avec le peuple Khoi San qui considère comme sacré l'emplacement sur lequel Amazon entend construire son complexe.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Pour commencer, du football, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans en Afrique.
Oui, avec les matchs retour du deuxième tour, la Guinée, non sans peine, a éliminé le Libéria après l'avoir battu 7-1 au prochain tour. Les jeunes filles guinéennes affronteront les Ghanéennes qui ont écarté les Sénégalaises 4-0. Ça passe aussi pour le Nigeria, facile vainqueur de la RDC 8-0 sur l'ensemble des deux matchs, tout comme le Maroc qui a écarté le Bénin 2-0 après le nul 1-1 du match aller au prochain tour. Nigérianes et Marocaines vont affronter respectivement l'Égypte et le Niger.
Les interclubs de la CAF à présent, cinquième journée de la phase de poule et en Ligue des Champions, cinq nouveaux qualifiés pour les quarts de finale.
Tout à fait. On peut compter le Mamelodi Sundowns dans le groupe A après son succès 4-2 au Soudan devant Al Hilal dans la poule B. Le Raja de Casablanca et l'Entente de Sétif ont fait pareil en s'imposant respectivement 2-0 sur la pelouse des Sud-Africains d'Amazulu et 3-2 face aux Guinéens de Oroya. Enfin, c'est l'Espérance de Tunis, vainqueur 3-0 chez les Bossoilais de Galassie et le CR Belouizdad, dominateur de l'Étoile du Sahel 2-0 qui ont empoché les deux billets du groupe C. Le Wydad de Casablanca et le Petro Atlético de Luanda ont déjà assuré leur qualification lors de la précédente journée. L'ultime ticket sera attribué dans 15 jours à l'issue du match à l'aller du Caire à l'Hilal du Soudan.
On jouait aussi la cinquième et avant-dernière journée en Coupe de la Confédération.
Exactement Idrissa. Et là aussi, on connaît presque tous les qualifiés. Cinq équipes ont déjà validé leur ticket, notamment les Libyens d'Al Ittihad qui ont rejoint Pyramide FC d'Égypte après l'avoir battu 1-0 dans le groupe A. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont fait de même dans la poule B après leur victoire de 2-0 sur la pelouse de la JS Saoura. Et puis, la poule C livre également son verdict. Les Jésuitiens d'Al-Masri vainqueur 2-0 du Coton Sport du Garoua et le tout-puissant Mazembe, malgré son nul 2-2 face à l'AS Otoodo.
Tout reste en revanche ouvert dans le groupe D.
Oui, avec la bonne opération des Ivoiriens de la SEC d'Abidjan. Très belle victoire 3-0 face aux Tanzaniens de Simba Sport. Les Mimos sont en tête du groupe avec 9 points, 2 longueurs d'avance sur Simba et les Marocains de la Renaissance du Berkane, son prochain adversaire, qui a été accroché à Niamey par l'US Gendarmerie Nationale, score 2 buts partout. Les Nigériens ferment la marche, mais ça reste ouvert dans ce groupe T, très serré, où tout le monde peut encore se qualifier.
Athlétisme à présent avec les mondiaux en salle à Belgrade.
Et les Éthiopiens ont rayé dans les courses de demi-fond. Chez les dames, 3000 mètres, Lemlem Ayilu a remporté le titre en 8 minutes 41 secondes. Sur les 1500 mètres, c'est bien Goudaf Tesgai qui s'impose en 3 minutes 57 secondes. Au niveau des hommes, c'est Samuel Tefera qui remporte les 1500 mètres en 3 minutes 32 secondes et Selemon Barega sur les 3000 mètres avec un temps de 7 minutes 41 secondes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, les travaux du dialogue républicain démarrent aujourd'hui. Ces énièmes pourparlers entre centrafricains vont porter sur 5 grandes thématiques. Paix et sécurité, gouvernance politique, développement économique et social. L'ouverture sera présidée par le dirigeant de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, de Bangui, notre correspondant, Freeman Sipila.
Durant 7 jours, les quelques 450 participants scruteront les problèmes qui minent depuis des décennies le développement de la République centrafricaine. Le pays n'en est pas à son premier dialogue de ce type, mais celui-ci a toute son importance selon Evariste Ndamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole du MCU, le parti au pouvoir.
Je pense que ce dialogue est nécessaire puisque ça permettra de faire un état de lieu de la République et d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et avec bon espoir, mais de manière sereine, puisque vous savez que notre pays a traversé beaucoup de crises. Et aujourd'hui, quand on parle de paix, la paix c'est un processus. Et quand on a la recherche de paix, il faut dialoguer. Et ce dialogue, comme le nom le stipule, c'est un dialogue républicain.
Paix et sécurité, gouvernance politique, diplomatie, développement économique et social, état de droit sont les grandes thématiques qui vont orienter les débats. L'organisation assure que tout est prêt pour le démarrage des travaux. Paul Cresson Beninga, rapporteur général du comité préparatoire.
Nous disposons d'un agenda qui a été distribué depuis hier dimanche aux participants. Lorsque vous jetez un regard sur l'agenda, nous aurons 2 jours des travaux en commission et 3 jours de débats en plénière. Nous avons 5 thématiques. Les participants sont invités à choisir une commission par rapport à la thématique. Si vous voulez, une thématique vaut une commission. Il n'y aura pas des sujets tabous. Ce qui est sûr et certain, j'ose croire et mettre avis, il y aura plutôt des sujets qui fâchent. Les sujets qui font grincer les dents, c'est extrêmement important.
Plus d'une dizaine de dialogues politiques ont été organisés en Centrafrique depuis son accession à l'indépendance en 1960. Cependant, les recommandations de ces dialogues n'ont jamais été suivies à la lettre. Les Centrafricains ont de fortes attentes pour celui-ci.
C'est pas bien d'aller au dialogue et négocier les postes ou bien pour chercher de quoi manger.
Nos parents vivaient dans la paix, mais aujourd'hui, après des multiples crises, notre pays a traversé un moment difficile. Dans ces crises-là, on a tenu des dialogues et se solder à des échecs. Je veux pour ça là que les fils de ce pays parlent de ce qui ne va pas dans ce pays et après nous voulons le retour à la paix.
Nos attentes par rapport à ce dialogue, c'est la paix.
Nous attendons ce qu'on sort de ce résultat maintenant. Désormais, on ne parle plus de dialogue, il y aura une solution qui est réaliste et concrète.
Si ce dialogue dit républicain est censé réunir toutes les forces vives de la nation, certaines entités ou personnalités politiques déclinent l'offre. C'est le cas de Joseph Bendunga, ancien maire de Bangui et député de l'opposition.
Qu'est-ce qui justifie un dialogue après les élections? Aller dialoguer pour dire quoi? Parce que c'est Bozizé qui a créé la CPC qui a mis le feu au pays. C'est une querelle entre le seigneur Bozizé et son vassal Faustin Archange Touadéra. Ce sont ces deux hommes-là qui doivent dialoguer et non le peuple centrafricain qui est victime de leur malgouvernance et de leur soif de pouvoir.
De ce unième dialogue organisé sans les groupes armés à Bangui, devront découler des propositions de pistes de sortie de crise et de la relance économique du pays. L'ouverture va être présidée ce lundi par le président Faustin Archange Touadéra. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Pour rappel, selon Nicolas Tiangaï, porte-parole de la coalition de l'opposition 2020, la quasi-totalité de l'opposition ne participera pas au dialogue républicain. Le porte-parole de la présidence a souligné, lui, que le dialogue est maintenu pour ce lundi.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Mali, pour la énième fois depuis le coup d'État du 18 août 2020, le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck. Goodluck Jonathan était à Bamako pour une visite de 2 jours. Au terme de cette visite, sur laquelle beaucoup de Maliens fondaient un espoir, aucun accord n'a été trouvé sur le chronogramme des élections. Notre correspondant Mohamed Danyoko.
Arrivé à Bamako dans l'après-midi du vendredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui était accompagné d'une forte délégation, a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Au cours de son séjour de 48 heures, la délégation a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à 2 reprises et a eu des séances de discussion avec 4 membres du gouvernement. Mais il n'y a pas eu d'accord au terme des échanges à cause des délais. Les autorités maliennes, dans un communiqué, disent opter pour une prolongation de 24 mois. Un point de blocage qui est loin d'être du goût de Assetou Founé Samake, qui fondait beaucoup d'espoir sur cette énième visite du médiateur de la CEDEAO.
Je ne suis pas du tout satisfaite du résultat qui ressort de cette visite du médiateur de la CEDEAO au Mali, car il n'y a pas eu d'accord et je ne m'y attendais pas du tout après tant de visites des délégations de la CEDEAO au Mali. Je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de soulager les populations.
Le cadre des partis politiques pour une transition réussie qui a tenu une conférence de presse pendant que le médiateur de la CEDEAO était sur le sol malien a rappelé que la transition, conformément à la première charte, doit prendre fin le 25 mars prochain. À défaut d'un accord avec la CEDEAO, ces partis, par la voix de Amadou Koïta, appellent à ouvrir une troisième phase de la transition.
Le cadre suggère également que d'ici le 25, que l'ensemble des forces vives de la nation se retrouvent avec les autorités de la transition pour décliner une nouvelle feuille de route. De la transition, feuille de route qui doit en principe nous permettre d'aborder avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité la troisième phase de la transition qui doit être sanctionnée par le retour à l'ordre constitutionnel.
Pour Assetou Founé Samake, il est temps que chaque parti fasse des efforts supplémentaires pour sortir de cette phase de négociation autour du chronogramme électoral.
Il faut trouver un consensus très rapidement entre la CEDEAO et le Mali, ne serait-ce que pour soulager les populations. Donc aux deux parties de revoir leur position, aux autorités maliennes de proposer un chronogramme assez acceptable pour qu'on aille aux élections. Je pense que c'est le moment.
Dans son communiqué, le gouvernement affirme avoir fait des efforts en passant de 36 mois à une prolongation de 24 mois et d'y regretter la position intransigeante de la CEDEAO. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les populations font face à un effondrement du réseau électrique national, une situation catastrophique dans un contexte marqué par l'explosion des prix du carburant servant à alimenter les groupes électrogènes, la principale seule source d'énergie depuis cet incident. De nombreux habitants de la capitale fédérale du Nigeria continuent à compter leurs pertes suite aux pannes d'électricité, nous dit notre correspondant Gilbert Tamba.
Regina Odion est propriétaire d'une chambre froide installée dans le marché de Dousté, situé à la banlieue d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle a perdu 20% de son chiffre d'affaires depuis l'effondrement du réseau électrique national.
La crise nous affecte sérieusement. La semaine dernière, j'ai été obligée d'envoyer 3 cartons de poissons à raison de 28 000 naira par carton au fumage. Ensuite, j'ai partagé une partie aux gens et j'ai vendu une autre à bas prix. Je donnais même parfois 5 poissons à 1 000 naira. Voilà comment la crise nous a affectés. Nous avons perdu notre capital et les bénéfices qu'on devait gagner.
Le prix du diesel qui alimente le générateur de la chambre froide a quasiment triplé. Il était initialement vendu à environ 40 centimes le litre. Mais depuis quelque temps, son prix est passé à 80 centimes. Et aujourd'hui, il est passé à presque 1,60 euros. Au cours des dernières semaines, le niveau d'électricité généré et servi au réseau national pour la livraison ultérieure aux clients a été extrêmement bas. Au forêt, James est vendeuse dans une boutique dans ce marché populaire.
Pour les gens qui doivent utiliser de l'électricité pour leur entité d'affaires, je sais qu'ils ont d'énormes difficultés en ce moment. Moi, je suis juste une vendeuse et j'ai besoin de l'électricité dans ma boutique pour rendre l'environnement un peu agréable. Mais tout cela n'est pas le cas en ce moment.
Elizabeth Rowland vit avec sa famille dans la grande cité de Guarimpa. Elle affirme qu'au cours des deux derniers mois, la situation de l'électricité s'était aggravé, affectant ainsi son foyer.
Le manque d'électricité est devenu un problème sérieux. Je ne dors pas la nuit et parfois votre téléphone est même éteint. Pour trouver le carburant, c'est un autre problème. Lorsque vous partez à la station, il faut payer d'abord quelque chose pour gagner l'essence. Ce n'est vraiment pas facile.
Les autorités attribuent le mauvais approvisionnement en électricité à l'échelle nationale à la faible production d'électricité du réseau national. Une situation qui entraîne des délestages récurrents dans les zones touchées. Bode Longue, consultant, stratégiste et expert en électricité.
Sur le plan stratégique, quel est le problème? La réalité est que ces problèmes sont connus. Tout dépend de ce que vous faites le moment opportun pour prévenir la période de crise.
Dans la capitale fédérale Abuja, comme dans d'autres états du pays, la mauvaise alimentation électrique ou les pannes d'électricité persistent depuis plus d'un mois. Mais le ministre nigérien de l'énergie rassure Aboubakar Aliou.
Nous avons rétabli le réseau électrique. Nous travaillons sur ça maintenant. Nous essayons maintenant d'ajouter plus de mégawatts dans le réseau. Tout ce problème est lié au gaz. Et nous sommes en train de trouver des solutions, ce qui pourrait prendre quelques jours pour résoudre la crise.
Gilbert Samba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Cameroun, la lutte contre le Covid-19 ne fléchit pas. Plus de 500 000 personnes sont concernées par une nouvelle campagne de vaccination qui s'étale sur 5 jours. Les autorités sanitaires veulent booster prioritairement au travers de cette campagne la protection des personnes déjà vaccinées. De Yaoundé, ce reportage reçu vendredi dernier de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Une équipe mobile du programme élargi de vaccination est dans les locaux de la résidence du curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Arala, un quartier périphérique de Yaoundé. Le curé a accepté de se faire vacciner contre le Covid-19. Abbé Joseph-Sylvain Vondok.
Je viens de recevoir ma seconde dose de vaccin. Vous savez, nous sommes des personnalités publiques, nous recevons beaucoup de gens, donc nous sommes aussi très exposés. Depuis qu'on nous parle de cette pandémie, la chose qui protège le mieux, c'est le vaccin. Tout le temps, lorsqu'il y a des campagnes, nous recevons des équipes. Et cette fois-ci, on va les recevoir ce dimanche. Et donc, il est bien que moi-même avant, je le fasse déjà. Pour que dimanche, je dise aux gens, voilà ma carte, moi-même j'ai reçu le vaccin.
La particularité de cette 4e campagne contre le Covid-19 est qu'elle inclut, pour la première fois, le porte-à-porte. À cet effet, les équipes du programme élargi de vaccination se sont minutieusement préparées pour atteindre une large cible. Sa Majesté André Roger Zoa est chef d'une équipe de vaccinateurs.
La campagne ici, c'est depuis lundi que nous sommes sur le terrain. Il y a des mobilisateurs qui ont commencé lundi. Cela veut dire que c'est le mobilisateur qui prépare la communauté en annonçant l'arrivée des vaccinateurs. Et depuis mercredi, la vaccination a commencé. Notre cible, c'est des 18 ans en montant. Nous avons les types de vaccins. Nous avons Sinopharm, qui se prend en 2 doses. Nous avons Johnson & Johnson, une seule dose. Et nous avons le Pfizer, qui même les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent prendre. Si on était ailleurs, après la canne, tout le monde allait nous dire que c'est fini. Il y a des réticences, bien sûr, mais nous sommes bien reçus.
Selon les responsables du programme élargi des vaccinations, il est question d'administrer la dose booster aux personnes âgées de plus de 50 ans, au personnel de santé, aux diabétiques, obèses ou hypertendus qui ont déjà été complètement vaccinés. Mais le public cible reste encore divisé au sujet du vaccin contre le Covid-19.
Il y a déjà eu trop de bruit autour de cette maladie. Il y a eu trop de rebonds. Ensuite, il y a eu trop de vagues. Je crois qu'on est déjà à la 5e vague. Ça fait vraiment un peu peur. Je préfère rester comme ça sans prendre ce vaccin.
Je suis venu me faire vacciner
pour ne pas attraper le Covid. J'ai suivi à travers les médias. C'est pour ça que je suis venu.
C'est normal qu'on se vaccine pour vraiment se protéger. Si cela peut permettre qu'on se sente bien.
Les autorités sanitaires espèrent faire passer le taux de couverture vaccinale de 8 à 10%. Le Cameroun vise un taux de vaccination d'au moins 40% de sa population en fin d'année 2022. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia et John Linden, Georges Léonard Sagno à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.